Vous écoutez, on lit pour vous.
Les secteurs du transport et de l'industrie plombent le bilan climatique du Québec. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 19 décembre 2025 dans Le Devoir. Les émissions de gaz à effet de serre, GES, du Québec se chiffraient à 78 millions de tonnes en 2023, selon le plus récent bilan officiel disponible, publié récemment. À eux seuls, le secteur des transports et celui de l'industrie représentent les trois quarts des émissions de la province. Les plus récentes données permettent de constater que les émissions de GES de la province avaient diminué de 19,7% en 2023 par rapport au niveau de 1990, en tenant compte de l'effet du marché du carbone. Sans inclure cet outil économique, les réductions atteignaient 8,5%. La cible actuelle, qui est une obligation légale inscrite dans la loi sur la qualité de l'environnement, prévoit un recul de 37,5% d'ici 2030, toujours par rapport au niveau de 1990. Le ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, a toutefois évoqué à plusieurs reprises l'idée de réduire les ambitions de réduction des GES du Québec pour l'horizon 2030, en évoquant la nécessité d'agir, mais sans nuire au développement économique. Le communiqué annonçant le bilan de GES 2023 est d'ailleurs intitulé « Agir pour le climat sans nuire à l'économie ». Transport et industrie. Les données de l'inventaire publié vendredi confirment une baisse de 1,4% des GES en 2023 par rapport à 2022. Les émissions demeurent également sous le niveau observé avant la pandémie. Sans surprise, le secteur des transports représente le principal émetteur de GES du Québec, avec 44,8% du total. Le seul transport routier émet 33,4% des gaz qui contribuent à alimenter la crise climatique. Entre 1990 et 2023, le bilan du secteur a d'ailleurs augmenté de 27,7%. Depuis 1990, ces émissions ont augmenté en raison de l'accroissement du nombre de véhicules, de leur puissance et du kilométrage parcouru. Elles sont toutefois en baisse depuis 2019 et elles devraient continuer de diminuer grâce à la part croissante des véhicules électriques et au développement des biocarburants, explique le gouvernement dans son communiqué. Les industries se situent au deuxième rang des émetteurs de GES de la province, avec 31,7% du bilan. Les émissions du secteur ont cependant reculé de 22,6% depuis 1990. Empreinte carbone plus élevée. Entre 1990 et 2023, les émissions de gaz à effet de serre par habitant sont passées de 12,2 à 8,8 tonnes par personne, soit une baisse d'environ 28%, toujours selon les données officielles. N'oublions pas que nous avons le meilleur taux d'émissions de gaz à effet de serre par habitant en Amérique du Nord. Nous devons en être fiers, a déclaré le ministre Bernard Drainville, par voie de communiqué. Le gouvernement vante donc le bilan dans un contexte nord-américain où plusieurs territoires n'ont pas accès aux ressources renouvelables dont bénéficie le Québec. La moyenne mondiale des émissions par habitant se situe cependant à 6,6 tonnes par habitant. La moyenne pour les pays d'Amérique latine et des Caraïbes se situe à 2,64 tonnes. En Afrique subsaharienne, celle-ci atteint 0,76 tonnes. Qui plus est, pour espérer limiter le réchauffement mondial à 1,5 degré Celsius, il faudrait que chaque humain émette au maximum 1,9 tonnes de GES par année d'ici 2050, avant de descendre à zéro. Les chiffres sur le bilan de GES du Québec, dévoilés vendredi, ne disent par ailleurs pas tout de notre empreinte carbone. Un rapport publié le mois dernier par l'Institut de la statistique du Québec, ISQ, concluait que l'empreinte carbone atteignait 114 millions de tonnes de gaz à effet de serre en 2021, soit un bilan nettement plus élevé que les données provinciales officielles pour la même année, 77,9 millions de tonnes. Le portrait global pour 2021 représente une empreinte de 13,2 tonnes par habitant, dont 8,8 tonnes sont directement générées par des activités servant à répondre aux besoins en dépenses courantes des ménages. Cette mise à jour de l'empreinte carbone des ménages et de la société, publiée par l'ISQ, donne ainsi un portrait plus complet du bilan des émissions de GES du Québec, puisque les données comprennent aussi celles liées aux activités et à la consommation dans la province, mais générées hors de notre territoire. De cette empreinte, 46 % est générée au Québec, 15 % dans les autres provinces et les territoires du Canada, et 40 % ailleurs dans le monde, précisait l'organisme. En mettant en lumière une approche basée sur la consommation et donc sur toute la chaîne d'approvisionnement, on apporte un éclairage différent sur les émissions de GES. L'analyse de l'empreinte carbone permet d'alimenter la réflexion sur les modes de consommation actuels et sur leur durabilité, et de mettre en perspective la pression environnementale exercée à l'extérieur des frontières du Québec, explique l'ISQ dans son analyse des données. C'était « Les secteurs du transport et de l'industrie plombent le bilan climatique du Québec », un texte d'Alexandre Shields, paru le 19 décembre 2025 dans Le Devoir.
Un virage vert couronné de succès. Un texte de Sarah Champagne, paru le 20 octobre 2025 dans la presse. Des cabinets de dentistes obtiennent leur certification écologique malgré les contraintes sanitaires liées à leur pratique. Lac-Brome. Dans un milieu où la contamination croisée peut provoquer des problèmes graves, une poignée de dentistes passe au vert au Québec. Pour l'instant, seulement 7 cliniques ont obtenu une certification écologique, un tour de force dans l'univers de la santé buccale où les produits jetables à usage unique sont rois. On ne va pas se le cacher. Les cliniques dentaires sont des usines à déchets, concède la chirurgienne dentiste Julie Tremblay, en ouvrant à la presse la porte de l'une des salles d'examen de sa clinique de Lac-Brome dans les cantons de l'Est. En apparence, la salle n'a rien de particulier. Tout est immaculé et blanc, avec des plateaux en acier inoxydable. Mais quand on y regarde de plus près, des pratiques écologiques sont présentes dans tous les recoins. La clinique est en plein chantier pour redessiner ses espaces en gardant à l'esprit le développement durable. À l'entrée, les pantoufles jetables bleues ont laissé place à des sandales lavables et faciles à enfiler. Quand un patient tourne le coin du couloir, il ne peut pas manquer la présence d'une boîte de recyclage. La clientèle peut y déposer ses vieilles brosses à dents en plastique, contenant de fils de soie dentaire, brossettes, curettes et seringues de blanchiment des dents. La clinique les achemine à une entreprise de recyclage. Catherine Pelletier est hygiéniste dentaire. Avec la docteure Tremblay, elle a embarqué à fond dans une expérience verte proposée par l'Association des chirurgiens dentistes du Québec, ACDQ. Le duo dentaire a commencé par réduire les déchets à la source en trouvant des solutions de rechange aux produits jetables. Une vingtaine de cliniques au Québec ont tenté l'expérience, mais seulement 7 ont décroché une certification officielle de la Société provinciale Recyc-Québec. Ici, on recycle. À la clinique de Lac-Brome, l'un des changements les plus notables concerne le bavoir dentaire. Le bavoir en papier que le patient se fait passer autour du cou, attaché avec des agrafes, a été remplacé par une version lavable en polyuréthane imperméable compatible avec les désinfectants dentaires fabriqués en Outaouais. Dentistes et hygiénistes portent encore des masques jetables, moins chauds à porter qu'en tissu, disent-elles, mais ils ne sont pas jetés à tout bout de champ. Idem pour les gants. Il y a une façon de se déganter pour une tâche et de remettre les gants durant un même traitement sans les contaminer, précise la docteure Tremblay. 337 000. Nombre d'articles à usage unique que 20 cliniques ont réussi à détourner de l'enfouissement en participant au plan vert en 2024. Plus de 75 000 articles ont été réorientés vers les collectes de recyclage ou de matières organiques. Source : Association des chirurgiens dentistes du Québec, ACDQ. Le plus difficile, c'est de changer les habitudes dans un milieu qui doit rester très aseptisé, explique l'hygiéniste Catherine Pelletier. Par exemple, au lieu de jeter le bavoir après utilisation, il faut nettoyer la surface de travail sur laquelle on a posé le bavoir souillé, le nettoyer et ensuite nettoyer de nouveau la surface de travail. Il y a une logistique qui demande du temps, mais c'est faisable avec de la volonté, explique-t-elle. Clientèle ouverte. L'expérience écologique vécue par les patients va plus loin. Les tiges en bois des cotons-tiges utilisées pour désensibiliser les gencives avant l'anesthésie vont au compost. Les métaux des vieilles couronnes et des amalgames sont acheminés à une entreprise de récupération. Les contenants de produits grand format rechargeables sont favorisés. Au lieu des gobelets jetables pour se rincer la bouche, la clinique a garni ses tablettes de verre à eau récupérés dans un sous-sol d'église du village. Ils vont au lave-vaisselle. Les serviettes à main ne sont plus en papier. Ce sont des serviettes comme à la maison. Elles vont à la machine à laver. Plus encore, la clinique est actuellement en pourparlers pour offrir des brosses à dents en bambou, résistantes, qui ne goûtent pas le carton, explique la docteure Julie Tremblay, et elle projette de remplacer les pochettes jetables qui recouvrent les cassettes d'instruments stérilisés, dont la fameuse seringue, par du réutilisable. Les embouts de suction sont stérilisés et réutilisés. Enfin, quand le patient reçoit son congé de la chaise du dentiste, on lui remet sa trousse de nettoyage, une brosse à dents neuve et de la soie dentaire dans un sac en papier. Mon objectif est d'éliminer complètement les sacs de la clinique, nous dit la docteure Julie Tremblay. En ce moment, quand nous voyons que les gens sont ouverts, on leur demande s'ils ont besoin du sac. La clientèle est heureuse de constater nos démarches. Elle se montre généralement ouverte à notre virage. Afin de parvenir à ces résultats, la clinique a suivi le plan vert de l'ACDQ, élaboré grâce à une subvention et l'expertise diagnostique de la firme Stratzer, spécialisée en services conseil en économie circulaire. À l'ACDQ, le directeur des services aux membres, Benoît Tardif, a constaté qu'il demeure difficile de trouver une solution de remplacement au plastique en dentisterie. Les déchets à eux seuls nécessitent 3 poubelles dans les salles d'examen. Déchets, déchets toxiques, seringues et recyclage. « Ça ne se fait pas en criant ciseaux, dit-il. Ça demande une réorganisation tout en gardant en tête la priorité de garder les cliniques aseptisées. » On a présenté nos conclusions au printemps. L'Ontario et la Colombie-Britannique nous suivent. Il faut commencer par réduire à la source. On espère que d'autres cliniques vont emboîter le pas, que ça va s'étendre à l'ensemble du réseau. C'était un virage vert couronné de succès, un texte de Sarah Champagne, paru le 20 octobre 2025 dans La Presse.
Une libellule surgit du passé. Un texte de Joël Leblanc, paru le 8 janvier 2026 dans le magazine Québec Science. Cachée dans la roche depuis 75 millions d'années, une petite aile de libellule fossilisée a créé l'émoi lors d'une campagne de fouilles en Alberta. Elle aide à mieux comprendre un écosystème depuis longtemps disparu. Durant l'été 2023, comme tous les étés, Hans Larsson, professeur de paléontologie au département de biologie de l'Université McGill, emmène un groupe d'étudiants et étudiantes au parc Provincial Dinosaur, à 200 km à l'est de Calgary, en Alberta, pour les initier aux fouilles. Nous cherchions dans des couches datées de 75 millions d'années surtout des fossiles de vertébrés, comme des dinosaures, se rappelle le paléontologue. Mais nous savions que nous fouillions dans des couches rocheuses reconnues pour livrer parfois des feuilles d'arbres fossilisées. André Mueller, alors étudiant à la maîtrise, casse des cailloux et tombe sur un fragment de roche dont la surface semble inhabituelle. Les premières secondes, j'ai cru que j'avais affaire à un fossile de feuille avec ses nervures, se rappelle-t-il. Mais je l'ai rapidement trouvé bizarre, cette feuille. Je l'ai montrée aux autres et on est tous restés incrédules. Le petit fragment de pierre, d'à peine 5 cm de large, exhibe de fines lignes qui rappellent les nervures des ailes d'un insecte. Mais on n'avait jamais trouvé d'insecte dans ces couches de roche, d'où nos doutes. On considérait même que c'était impossible. Se remémore Alexandre Demers-Potvin, paléontologue québécois, qui était aussi sur place lors de la découverte. En consultant des ouvrages de référence en entomologie actuelle et fossile, ainsi que d'autres spécialistes, l'équipe s'est rendue à l'évidence. Elle avait mis la main sur un bout d'aile fossilisé de libellule. L'insecte, qui a volé entre les pattes des dinosaures de la fin du Crétacé, est la première libellule de cette époque jamais découverte au Canada. La description de la bestiole a fait l'objet d'une publication dans le Canadian Journal of Earth Sciences en août 2025. Ses caractéristiques uniques lui valent d'appartenir à une famille créée pour l'occasion, les Corduala-Dancidae. Son nom complet, Corduala densa, acorni, est un hommage à John Acorn, un communicateur scientifique de l'Alberta. La libellule avait la taille d'une main humaine
et aurait joué un rôle écologique important, notamment comme proie pour les raptors. L'anatomie de son aile indique une capacité de vol plané semblable à celle des libellules migratrices actuelles. La découverte permet de combler un vide de 30 millions d'années dans l'évolution des libellules, explique Hans Larsen. Elle enrichit notre compréhension de la biodiversité du Crétacé et de l'écosystème canadien préhistorique. Il s'agit d'une espèce qui était encore inconnue, mais surtout, la trouvaille nous ouvre les yeux sur la possibilité de découvrir d'autres fossiles d'insectes dans les sédiments du parc, évoque Hans Larsen. Comme on considérait qu'il n'y en avait pas, on ne les cherchait pas. Il a fallu les yeux neufs d'un étudiant pour faire cette découverte. Combien d'autres fossiles d'insectes nous ont échappé depuis 100 ans? Chose certaine, les paléontologues ne regardent plus les roches de la même façon et de nouvelles espèces d'insectes fossiles devraient rapidement rejoindre cette petite libellule dans le portrait de l'écosystème des Badlands il y a 75 millions d'années. C'était une libellule surgie du passé. Un texte de Joël Leblanc, paru le 8 janvier 2026 dans le magazine Québec Science.
Faut-il s'inquiéter du réchauffement des océans? Un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 19 janvier 2026 dans la presse. Ils absorbent en silence des quantités phénoménales de carbone et de chaleur et régulent le climat de la planète depuis toujours. Mais les plus récentes données montrent que les océans approchent d'un point de saturation, ce qui pourrait accélérer davantage le réchauffement planétaire. Quelles sont ces plus récentes données? Une étude publiée récemment dans la revue Advance in Atmospheric Science indique que les océans ont absorbé une quantité record de chaleur en 2025, soit 23 zettajoules. C'est comme si on relâchait chaque seconde dans l'océan 12 bombes atomiques, comme celle qui a détruit Hiroshima en 1945, précisent les auteurs de l'étude. Concrètement, les océans ont donc absorbé l'énergie équivalente à celle de 378 millions de bombes atomiques pour la seule année 2025. Ce sont de gros chiffres, mais les océans représentent tout de même les deux tiers de la surface de notre planète, non? C'est exact. Il est aussi exact de préciser que l'eau prend beaucoup plus de temps que l'air à se réchauffer. Les océans représentent environ 71% de la surface de la planète. Il faut donc qu'ils absorbent des quantités phénoménales de chaleur avant qu'ils se réchauffent de façon significative. Le hic? C'est exactement ce qui se produit. Les océans se réchauffent de plus en plus à des profondeurs allant jusqu'à 2000 mètres. La quasi-totalité de la chaleur générée par le réchauffement climatique finit dans les océans. Ainsi, si vous voulez savoir dans quelle mesure la Terre se réchauffe, la réponse se trouve dans les océans, signale John Abraham, professeur de sciences thermiques à l'Université Saint-Thomas au Minnesota, en entrevue avec la presse. On parle tout de même d'une seule année. Le phénomène ne serait pas inquiétant, en effet, s'il était circonscrit dans le temps. Or, près de 50% de l'augmentation totale de la chaleur océanique depuis l'ère pré-industrielle s'est produite au cours des 20 dernières années. Grosso modo, les océans absorbent chaque année 90% de l'excédent de chaleur provoqué par les émissions humaines de gaz à effet de serre, GES, des émissions qui augmentent toujours, faut-il rappeler. Sans les océans, la situation serait donc pire? La réponse est évidente, d'autant plus que les océans absorbent également environ 30% du CO2 issu des activités humaines. Mais cette capacité à absorber nos émissions polluantes et la chaleur qui y est associée est de plus en plus mise à mal. Les eaux plus chaudes absorbent moins bien le CO2 que l'eau froide, rappelle Alain Bourque, directeur général du consortium de recherche Uranos. Au fur et à mesure que les océans se réchauffent, ils absorbent donc de moins en moins de CO2. Est-ce qu'on a mesuré cette baisse de l'absorption du CO2 par les océans? Oui, et de manière assez précise. Une étude publiée en 2025 dans la revue Nature Climate Change mentionne que les océans ont absorbé 10 % moins de CO2 que prévu en 2023 en raison des eaux plus chaudes. Ce CO2, qui n'est pas absorbé par les océans, se retrouve donc dans l'atmosphère, accélérant ainsi le réchauffement futur, rappelle John Abraham. Est-ce que ce phénomène pourrait s'accélérer si nous ne diminuons pas rapidement nos émissions de GES? Oui, et les chercheurs s'inquiètent notamment des canicules marines de plus en plus fréquentes dans nos océans. Celles-ci ont un impact significatif sur leur capacité à absorber du dioxyde de carbone. Ces épisodes de chaleur se multiplient et sont de plus en plus longs et intenses. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, les canicules marines deviendront 20 à 50 fois plus fréquentes d'ici la fin du siècle et leur intensité sera multipliée par 10. On parle d'un point de saturation pour les océans. Est-ce que ça pourrait vraiment se produire? Ça s'est déjà produit. Dans une étude publiée en 2007, la chercheuse franco-canadienne Corinne Lequeri a démontré que l'océan Austral, dans l'Antarctique, a vu sa capacité à absorber du carbone être fortement diminuée pendant une vingtaine d'années. C'est l'une des raisons pour lesquelles les scientifiques ont tenu à limiter le réchauffement à tout au plus 2 degrés Celsius dans l'accord de Paris. Au-delà de cette marque, la suite est plus difficile à prévoir, signale Alain Bourque. L'influence des océans est donc majeure? Tout à fait. Et cette influence peut parfois surprendre, comme le signale Philippe Gachon, professeur d'hydroclimatologie à l'Université du Québec à Montréal. Il explique que les incendies de forêt survenus au Québec et au Labrador en 2023 ont été en partie causés par une anomalie de température dans l'Atlantique Nord, provoquant des conditions atmosphériques plus sèches sur ces régions. Si les océans sont si importants pour le climat de notre planète, pourquoi en parle-t-on si peu alors? Les scientifiques en parlent, mais le public s'y intéresse moins, précise Alain Bourque. Ce qui préoccupe le plus les gens, c'est ce qu'ils peuvent voir comme les phénomènes météo extrêmes. Contrairement à un incendie de forêt ou à une sécheresse qui affecte les récoltes des agriculteurs, par exemple, une canicule marine n'est pas visible de la surface. C'était « Faut-il s'inquiéter du réchauffement des océans? » Un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 19 janvier 2026 dans La Presse.